les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique.
Madame, monsieur, bonsoir. La première classe dans le métro, trois bonnes raisons pour la supprimer et la classer au rayon souvenirs.
Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935.
Train de vie sur RCN, Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Train de vie. Le métro parisien, c'est évidemment une infrastructure de transport, mais aussi un lieu unique qui témoigne des goûts et des styles de l'époque. En effet, nous ne faisons pas forcément attention à cela. Il n'y a qu'à voir la cohue quotidienne sur les quais, les usagers ont plutôt leur nez dans leur smartphone, on utilise le métro pour se déplacer, non pour observer son architecture. Cette dernière a pourtant beaucoup évolué en fonction de l'époque, alors aujourd'hui nous allons retracer 120 ans d'architecture et d'aménagement dans les souterrains du métro. Lors de l'ouverture de la première ligne du métro parisien en 1900, les premiers voyageurs ont pu observer que l'aménagement des stations avait été fait à la va-vite, du moins sous terre car les entrées des stations, elles, avaient été très soignées pour qu'on ait envie d'entrer dans le métro. Ces entrées sont aussi nommées bouches du métro, mais aussi édicules. En 1899, soit un an avant l'ouverture de la première ligne du réseau, un concours est organisé par la mairie de Paris pour choisir l'architecte qui construira les édicules. Finalement, la CMP, la compagnie du métropolitain de Paris, a décidé de ne pas prendre compte du résultat car les projets avaient été jugés trop simplistes. Plusieurs noms d'artistes ont alors été directement proposés. Et donc ce sera le nom du jeune Hector Guimard qui sera retenu. Il propose deux types d'entrées, une version très imposante avec une entrée couverte et beaucoup d'éléments, une autre avec des entourages plus simples que l'on retrouve couramment aujourd'hui. L'originalité et le succès d'Hector Guimard se basent sur un style art nouveau avec l'emploi des courbes et des motifs floraux. Ils seront peints d'une couleur vert cuivre. Pour les souterrains, en 1900, on équipera les stations du fameux carreau blanc biseauté qui est le même utilisé aujourd'hui comme décoration d'intérieur. À l'ouverture des premiers tronçons du métro, les quais sont lugubres, comme le témoigne une des premières voyageuses du métro en 1900.
En descendant dans ces voûtes, qui étaient glaciales, toutes sombres, le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Une odeur d'antiseptique, une odeur de goudron, une odeur affreuse.
Après les souterrains, plusieurs stations aériennes ont été construites. L'architecture des stations aériennes a été construite par l'architecte Camille Formiger dans les années 1900. Ces portions aériennes sont construites sur les boulevards haussmanniens. Les stations et viaducs sont formés d'un alliage d'acier, de briques et pierres taillées. Les stations sont équipées de marquises en verre. À partir des années 1910, c'est l'arrivée de la nouvelle compagnie Nord-Sud. Un aspect beaucoup moins lugubre va être donné aux souterrains. C'était un peu leur marque de fabrique. On y retrouve notamment les premiers cadres publicitaires, car en effet, la CMP colle directement la publicité sur les murs, sans emplacement dédié, ainsi qu'un éclairage renforcé, donnant un côté plus chaleureux à la station. On découvre que l'écriture du nom de la station est en carrelage et non plus avec une simple plaque en tôle émaillée. Pour l'entrée des stations de la compagnie Nord-Sud, on emploie des entrées semblables à celles d'Hector Guimard, mais sans toutes les courbes, avec un aspect plus simple, c'est le début de l'art déco. C'est aussi l'apparition des mâts ou totems. Un mât est un panneau qui indique l'emplacement d'une station de métro placée en hauteur pour pouvoir être vu de loin dans la rue. Ce style luxueux de la compagnie Nord-Sud n'aura pas le temps malheureusement de se répandre très longtemps en raison de sa faillite en 1930, mais aujourd'hui ce style subsiste dans une vingtaine de stations. En raison des deux guerres mondiales, le style des stations ne changera guère entre 1920 et 1960, et c'est en 1960 que les rénovations des stations et les nouveaux styles apparaissent. Les premières stations ouvertes depuis déjà 60 ans ont bien besoin d'être rafraîchies. Un style innovant est tenté, le carrossage. Il s'agit de recouvrir les voûtes des stations avec des plaques métalliques en relief et des couleurs en fonction des stations. Le carrelage blanc biseauté était passé de mode. Et près de 80 stations adopteront ce style, notamment les lignes 12 et 3 en 1959 et 1967. Mais ce style sera lui aussi vite passé de mode et les difficultés de nettoyage en raison des nombreux recoins du relief conduiront à sa disparition. Il reste aujourd'hui environ 5 stations équipées de ce style. À la fin des années 1960, l'orange est à la mode et le métro compte bien surfer sur cette mode pour moderniser ses stations. Ainsi, une vingtaine de stations vont adopter ce style où l'on remplace les carreaux blancs par des carreaux plats orange vif. Pourtant, ce style s'arrêtera rapidement car l'orange est une couleur agressive et ça rend les stations moins lumineuses et elles paraissent aussi moins propres. En 1973, après l'orange, on revient au blanc, retour aux fondamentaux du métro. Dans les années 70, justement, les mâts des stations évoluent. Fini la belle pancarte métropolitain dans un style luxueux, place maintenant à la simplicité. Il est écrit uniquement sur les pancartes métro, désormais éclairé la nuit, puis peu de temps après, c'est encore plus simple, on met juste la lettre M, orangé et lumineux. Certaines stations ont été décorées pour commémorer certains événements. On peut retrouver, par exemple, pour le passage de l'an 2000, une des entrées de la station Palais Royal Musée du Louvre, qui reçut une structure de boules colorées rouge et bleu représentant jour et la nuit, réalisée par Jean-Michel Autoniel. Les quais de la ligne 12 à la station Concorde sont, eux, recouverts par le texte de la Déclaration des droits de l'homme et avec des petites lettres. La station Louvre-Rivoli, des copies d'œuvres du musée du Louvre sont installées sur les quais. Enfin, la station qui pour moi est la plus emblématique du métro est la station Arts et Métiers. Cette décoration, inspirée non seulement par l'univers de Jules Verne, mais surtout par l'école des Arts et Métiers, et l'œuvre donc de l'artiste belge François Schuiten. Des plaques de cuivre, des engrenages et des hublots revêtent la station qui lui donne des allures de sous-marin. À la fin des années 90, on veut moderniser l'image du métro pour passer à l'an 2000. Et quoi de mieux que la construction d'une nouvelle ligne, la 14, entièrement automatisée, dont je vous avais parlé dans une autre chronique. Un style révolutionnaire apparaît en cassant les codes architecturaux du début du métro. En souterrain, les stations sont très spacieuses. Fini le carrelage blanc biseauté, place au mur peint. Et le long des très longs quais de plus de 120 mètres, on installe du carrelage au sol, ce qui donne un sentiment de propreté. L'éclairage est revu complètement, il est plus discret et incrusté dans l'architecture du métro. À l'avenir, les quais des stations ressembleront sensiblement à ceux de la 14, mais ce qui va surtout changer, c'est l'entrée des stations. Des projets très ambitieux proposés par des architectes. L'entrée de métro sera une véritable œuvre d'art comparable donc dans sa démesure à un centre commercial. À l'avenir, pour trouver l'entrée du métro, vous devrez plutôt chercher un bâtiment d'une architecture résolument contemporaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Train de vie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler de la publicité dans le métro parisien. Les supports n'ont pas toujours été ceux d'aujourd'hui. Cette chronique ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur rcn-radio.org. Et moi, je vous dis à bientôt dans le métro.